Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Midi pile poil, Denis Gravel est vêtu de son merveilleux gilet des Bruins de Boston.
Ils sortent moins souvent cette année.
Ouais. Ouais. Mais ça, il est beau ton gilet.
Ouais, c'était une édition qu'il avait faite pour quelques équipes black and gold comme ouais. Ça. Regarde le nom.
Wow.
Thomas, Tim Thomas.
Tim Thomas qui avait gagné le Conn Smythe, j'en ai énormément.
Moi, j'aime l'ombrage sur le signe des Bruins.
Il avait fait la même chose avec un chandail du CH, ouais. Sauf que c'était une mince ligne rouge. J'en ai pas vu souvent, mais il était superbe. Ah, c'est ouais. Le chandail du Canadien que j'ai le plus passé proche d'acheter.
T'es toute une carte de mode.
Ah, c'est l'enfer, ah. C'est l'enfer.
Ah, parlant du
Canadien. Ouais. Oh. Victoire de 5-3 du Canadien de Montréal hier contre l'Utah. 2 buts pour Kirby Dack, Cole Caulfield, Mike Madison et Patrick Laine, qui ont été les autres marqueurs du tricolore. 3 mentions d'aide pour le spectaculaire Lane Hudson.
Yes!
C'est lui qui va gagner recrue de l'année?
Hey, là, j'écoute Max Larouche s'ostiner tout seul dans un corridor. Il est jeune un peu pour se parler tout seul. Ouais. Mais lui appelle tout le monde au calme là, en disant que Salaberry, il a manqué des games, puis ainsi de suite. Puis on aurait peut-être... Et c'est drôle parce que c'est un
trois,
gars... Qui...
3 matchs de différence à peu près.
Ouais, mais moi, c'est surtout que je trouve ça cute que Max Larouche aurait réalisé dans les dernières heures qu'on aurait comme un penchant de favoritisme pour les joueurs du Canadien de Montréal en général. Au Québec. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Je veux dire, on verra. Mais plein de jeunes talents qui explosent cette année à Montréal. Vous êtes chanceux. Moi, je sors mes chandails moins souvent. Les Bruins en ont gagné une bonne hier contre le Lightning, 6-2, mais tout n'est pas réglé.
Faut
en
jamais
dedans
sous-estimer
d'une victoire.
Les Bruins. Faut jamais sous-estimer Brad Marchand. Fait que tu peux garder confiance. C'est mon ami.
Yes.
Hey, on en parlait tantôt avec Pascal Fusillade ce matin à Sainte-Marie-de-Beauce à 9h sur le boulevard en face du McDo. Des écoles qui sont à proximité. Bon gars qui est dans une de ces deux écoles-là. T'as l'école secondaire, puis juste à côté, t'as la nouvelle école primaire qui est là. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants ce soir? C'est clair qu'ils ont entendu coup de feu, c'est à côté.
Ouais.
Je dis quoi, Denis?
T'as-tu eu des nouvelles? Comment l'école traite
l'école
ça?
L'école m'a pas écrit.
C'est-tu le genre d'école qui envoie 12 courriels par jour pour des affaires pas intéressantes ou pas pertinentes?
Cette année, c'est plus tranquille. L'an passé, on s'en parlait. À un moment donné, je les lisais même plus parce que tellement j'étais tanné. Mais là, aujourd'hui, j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qui se passait. Là. Ils ont-tu parlé aux enfants? Qu'est-ce qu'ils leur ont expliqué et tout ça?
En même temps, s'ils sont encore là-dedans, je trouve ça le fun que ce soit ça la priorité. Ouais. Mais s'ils sont pas du tout là-dedans, parce que les enfants sont pas au courant...
Ben, tu vois, il y a une équipe de hockey qui était dans un hôtel à Lévis là, qui a été marquée par la fusillade qui est survenue, l'erreur sur la personne. Il y a même des jeunes qui ont vu le tireur aller et sortir. Ils ont tout entendu coup de feu. Puis là, je comprends qu'ils ont du soutien là, psychologique. Là, je voyais ça dans les nouvelles aujourd'hui. Faut qu'un suivi soit fait. Puis faut que ce soit la priorité pour une école aujourd'hui qui est à quelques centaines de mètres. Parce que, tu sais...
Tu sais, quand on était jeunes, toi et moi, Denis, là, il se passait quelque chose. Puis là, on en parlait à nos parents, puis ton père te disait, Denis, ça se passe juste à New York, ces histoires-là.
Ouais, mais tu sais, on s'emballe.
À Sainte-Marie-de-Beauce.
On s'emballe vite, Yann. Hein? Moi, je me souviens de la une du Progrès dimanche où il nous disait qu'il y avait un maniaque qui s'était évadé de la prison. Puis c'était la une du journal. Le lundi matin, là, à l'école, dans le cours de récréation, on le voyait partout. Là.
Ben oui,
il est dans ce char-là. C'est lui, là, il se promène proche du parc. On était devenus paranoïaques en l'espace d'une semaine. Là.
Les Allopolis qui étaient pleins photos dégueulasses de crimes qui s'étaient produits ici. Puis tu sais, quand tu parles de lubies d'enfants, là, moi, j'étais sûre que Oussama Ben Laden était l'ange gardien parce que je me disais, quelle belle place pour se sauver. L'ange gardien, le trou-trou entre Bois-Châtel puis Château-Richer, où j'habitais, tellement qu'à un moment donné, j'ai obligé ma soeur, j'étais tout petite, mais j'ai obligé ma soeur de 4 ans, mon aînée, à s'asseoir sa toilette dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, tellement j'étais terrorisée.
Ben voyons.
Que Sama soit caché à quelque part.
T'avais peur qu'il sorte par la toilette?
Ben, que ça
puis qu'il revire de bord s'il y a quelqu'un d'assis.
C'est assez particulier, puis je me pose des questions à savoir, puis Pascal a émis certaines hypothèses qui sont tout aussi intelligentes. Là. Pourquoi,
un peu moins que ce que j'ai de compter.
Pourquoi la Sûreté du Québec ne diffuse pas le véhicule qu'on recherche?
Ouais.
Là, actuellement, là, la Beauce, il y a des policiers dans toutes les sorties d'autoroute, mais on n'a toujours pas le véhicule qu'on recherche. Alors qu'il y a des camionneurs qui seraient prêts à ouvrir les yeux. Il y a des automobilistes aussi qui roulent sur les rues de les rues de la Beauce.
Ils ont un signalement, les policiers? Ils ont un descriptif du véhicule?
Ils savent le véhicule.
OK. C'est une stratégie.
J'imagine. Okay. Mais tu sais, j'espère que la stratégie, c'est pas la stratégie aussi élaborée que celle qu'ils ont utilisée pour savoir les sœurs Carpentier, c'est-tu une alerte en beurre ou ça ne l'est pas? Attends un peu, on va aller prendre un café, on va réfléchir
non,
à ça.
Non.
Deux enfants qui ont été enlevés, ouais, on n'est pas sûr. Fait, toi, tu prends un café, on va prendre ma tisane.
Mm.
Tu sais, à un moment donné, là, on recherche un gars qui a ouvert le feu en plein jour. Ce gars-là a aucun jugement. Là.
Non, faut l'arrêter vite.
Rapide.
J'en déduis qu'ils sont sur le bord de lui mettre la main au collet et qu'ils veulent pas l'alarmer pour qu'il parte peut-être trop vite. J'essaye.
Ouais, c'est mon hypothèse.
Okay.
Ou encore, ils l'ont localisé à quelque part, mettons, proche de l'école ou autre, puis ils ne souhaitent pas faire leur intervention là parce que vu que le gars n'a pas de jugement, il pourrait commencer à faire du trouble. Puis
à Québec, tu sais comment ça fonctionne?
Comment?
La police de Québec commence par donner l'information aux patrouilleurs. Après ça, il y a de l'information qui est envoyée sur les pads des gars du RTC,
oui.
Des gars et des filles, puis des pads des chauffeurs de taxi.
OK. Hey, je savais pas.
Parce qu'ils sont nos yeux, nos oreilles.
C'est intéressant, ça.
Ils sont capables de voir qu'est-ce qui se passe dans la ville, puis ils peuvent transmettre l'information au service de police de la Ville de Québec. La Sûreté du Québec, c'est autre chose. Ils sont tellement intelligents, brillants, les gestionnaires, qu'il faut... ils ont leur propre stratégie. J'ai des questions à te poser, Denis Gravel.
Hey, juste avant, tu me fais réfléchir. En tant que parent, tu t'attends à quoi, toi, aujourd'hui? Moi, je m'attends à ce que ce soit abordé dans la classe avec mes enfants.
Exact.
Puis je m'attends, avant la fin de la journée, à avoir un petit courriel pour que l'école m'explique qu'est-ce qu'ils ont fait pour que je sois préparé à l'heure du souper à jaser avec mes gars de ce qui s'est passé puis de peut-être reprendre la conversation où l'école l'a laissé. Tu t'attends-tu à ça, toi, aujourd'hui? T'espères-tu ça?
Oui, oui, ouais, j'espère qu'ils seront rencontrés puis que moi, je vais avoir une discussion avec eux autres ce soir. Là, on m'informe qu'il y a un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui est au-dessus de la 40.
OK.
Donc, est-ce que ce serait rendu à ce niveau-là? On va avoir de l'information. Je suis assez
tapis clouté.
Je suis assez plugué avec les gars, donc ils vont m'en transmettre encore plus. Mais j'ai des questions à vous poser, les amis, de même qu'aux auditeurs. 418-971-1021, 418-971-1021.
Je suis prêt.
On paye des taxes municipales, ça?
Oui.
Bon, parfait.
Pas mal.
Ça inclut les poubelles.
Oui.
Ça inclut le déneigement.
Mm-hmm.
Puis là, le déneigement, dans certains endroits, ils te mettent la neige de la rue, ils te la mettent sur ton terrain.
Mm-hmm.
OK? Si toi, tu te dis, hey, je paye des taxes, je prends mon banc de neige, puis je vais voir mon voisin, fait que je prends ma pelle, puis j'envoie un peu de neige dans la rue.
Non, ça fait pas.
Ça coûte combien?
Il y a même des enfants qui se font avertir, là, tu sais, quand ils construisent un fort ou quelque chose.
Ouais.
Là, mets pas de neige dans la rue.
T'es sérieux?
Ah oui.
Ça coûte combien mettre de la neige dans la rue quand on est résident de Québec si jamais il y a un agent qui passe?
500?
Toi, tu dis 500.
C'est beaucoup, hein? Avec les frais administratifs, peut-être.
Ouais. Moi, dans ma tête, là,
ouais.
C'était pas pantoute ou 100$.
Ouais.
Tu sais, là, t'as fait déneiger tout ton entrée complet, t'as enlevé ton banc de neige, t'as mis ça dans la rue, ça coûte 100$.
Combien?
Pascal?
C'est pas, moi. Je trouve ça stupide.
C'est la peine minimale.
La peine, imagine.
300$.
Avec les frais administratifs,
à ça, on ajoute 364$, ce qui fait en sorte que l'agent a donné une contravention de 464$. Ça s'est donné à Beauport pour avoir jeté ou permis que l'on jette de la neige dans la rue alors qu'il est interdit de le faire.
Tu sais, un avertissement, puis après 25 juste pour dire, 50 juste pour dire, 300, 400. Est-ce que ça cause autant de problèmes que l'amende salée que ça donne?
Mais c'est-tu un récidiviste frustré avec la face rouge tout le temps? Là, je sais pas.
C'est un
Ouais.
Je sais pas, mais je me pose une question. Tu vas challenger... à la cour municipale.
On n'a même pas eu assez de neige cette année en passant pour être récidiviste là-dessus. Là.
C'est un bon point.
Très bon point.
Même pas de neige enlevée cette année. C'est pour ça qu'on est sévère.
Tu vas challenger là, à la cour municipale. Tu dis quoi? Monsieur le juge, c'est pas ma neige.
Ouais. T'auras pas un point gagnant avec ça.
À qui appartient la neige? À tous ou à celui non, sur lequel elle tombe?
Tu dis au juge, monsieur le juge, parce que l'agent, il se déplacera pas pour un banc de neige, je vous le dis. Là. Monsieur le juge, c'est pas ma neige, mais on m'a remis une contravention de 500$. Puis moi, j'ai pas mis ma neige dans la rue.
Êtes-vous capable de prouver que c'était la mienne?
Êtes-vous capable de prouver que c'était ma neige?
Lui, il est déjà prêt pour un spectacle à cour.
Moi, ma neige, je marque mon territoire, je pisse dessus. Étais-tu jaune, ce neige-là, monsieur le juge?
Non, c'est le chien du voisin.
C'était-tu écrit « Les Gravels
» Hey, c'est ridicule, c'est très cher. Ouais.
464$ pour avoir mis de la neige dans la rue.
Un ticket de parking, c'est quoi, 45 peut-être?
Hey, c'est plus que ça.
Plus que ça, à cette heure. Ça fait longtemps que je n'ai pas pogné.
Moi, j'en pogne assez.
T'en pognes souvent?
À Montréal, à chaque fois. Ah, c'est pas cher. Montréal. Faut que je le calcule dans mon budget.
Ouais.
Ton hôte te paye pas le parking? Tabarnouche.
Il est cheap.
Il est cheap.
Autre sujet, Denis.
C'est juste les yeux qui ont fait rire Denis.
Daniel Smith, qui est la première ministre de l'Alberta, est allé négocier directement avec Donald Trump pendant 2 jours à Mar-a-Lago.
Ouais.
Pour parler des sables bitumineux, pour parler de l'import-export, mm-hmm. de la taxe possible de 25 %. Pendant 2 jours, elle est devenue capitaine Canada,
oui.
puis on n'a pas entendu parler au Québec. Ou pratiquement pas.
Moi, en passant, je suis pour hein, que des premiers ministres de province oui. proactifs prennent les devants en disant « De toute façon, le Canada est à la dérive. » J'ai beaucoup aimé ce que Doug Ford a fait. C'est pas tout le Aussi. Monde qui a apprécié. Moi, l'idée de dire « Hey, on négocie, puis j'ai des choses à proposer. » Je trouve ça intéressant. Là, le truc de l'Alberta, tu me l'apprends. Je le savais pas. Je trouve ça doublement intéressant de dire « Elle, elle sait qu'elle a quelque chose que les États-Unis ont besoin, puis elle attend pas. Puis, tu sais, il faut se mettre dans la position et dans la peau de l'Alberta qui, pendant des années, se sont fait dire que leurs profits s'en vont dans les autres provinces, qu'ils se payent des programmes sociaux qu'ils n'ont pas en Alberta et ainsi de suite. Dans un contexte comme celui-là, tu te dis, j'atteins les autres puis je vais être pénalisé ou je m'en vais négocier direct. Moi, je trouve ça brillant, je trouve ça proactif. Je suis un Albertain ce matin, je suis fier de ma première ministre. Ouais.
Pourquoi on n'a pas entendu parler? C'est-tu parce qu'elle est un peu trop à droite? C'est-tu le pétrole sale de l'Alberta qui écœure les médias québécois? Je trouve ça très particulier, très particulier qu'on n'entende pas parler. Puis en plus, c'est une femme. Il y a quoi de plus médiatique qu'une femme qui décide de prendre le contrôle du Canada en disant, savez-vous quoi, je vais nous aider, je vais y aller, puis je vais aller affronter le méchant ouais. Donald Trump. C'est hot, là!
Mais ça, c'est pas la première fois, si jamais c'est du snobisme. Rappelle-toi Margaret Thatcher, la dame de fer. Ouais. Tu sais, quand tu parles des femmes au pouvoir et tout ça, t'as beaucoup de gens qui vont faire l'apologie de Pauline Marois, puis ainsi de suite. Puis là, tu lui dis, oui, mais avant tout ça, il y avait Margaret Thatcher. Ah, oh, ça compte pas! Elle était folle, elle! Non, pas nécessairement. Elle avait juste des idées un peu plus à droite, puis elle avait une main de fer dans oui. sa façon de gouverner. Mais c'était quand même une femme qui a accédé au plus haut titre disponible en Angleterre, si t'es pas la reine ou le prince. Là.
Ouais, puis elle était là pour son peuple, elle était là pour le mandat qu'elle faisait, et non pas pour se faire réélire. Ça a été une femme incroyable. Mais Daniel Smith est allé passer 2 jours avec Donald Trump. Et nous, on a un premier ministre qui est handicapé par la langue anglaise, ne parle pratiquement pas anglais, a énormément de difficultés à répondre à des questions en anglais.
Duolingo.
Qui n'est pas capable d'aller rencontrer Donald Trump parce qu'il peut pas, il peut pas y parler. Fait qu'il préfère écrire puis faire paraître son écrit dans un journal que... Est-ce que tous les Américains vont voir? On n'est pas sûr.
Puis une lettre, tu sais, il y a une différence. Là. Une lettre, c'est un positionnement politique. Il n'y a rien de concret là-dedans pour essayer de négocier, essayer de proposer des choses. À date, je trouve que le Québec est vraiment sur la voie d'évitement. Pour une province qui se prend pour un pays, là, surtout qu'on est très nationaliste à la CAQ, je trouve qu'à date, on n'a pas fait grand-chose dans ce dossier-là, puis on laisse le haut du pavé à l'Ontario, à l'Alberta, alors qu'on avait peut-être la plus belle opportunité depuis des décennies de faire bande à part et de concrètement, peut-être, proposer quelque chose aux États-Unis et aux autres partenaires commerciaux. Peut-être même prendre le lead de dire, ben là, tant qu'à repenser le Canada, on repense-tu le Canada, tu sais, dans nos relations commerciales et ainsi de suite? C'est un point que, bon, Jean Chrétien a peut-être exagéré un peu, mais lui dit, commercialement, il y a plus de frontières entre les provinces qu'entre le Canada et les États-Unis.
Exact.
C'est le temps de faire tomber ces choses-là. Le Québec aurait pu être un leader dans ces dossiers-là. Puis mettons que je suis assoiffé de pouvoir puis que je ne suis pas premier ministre présentement, je regarde ça passer puis je me dis, mon Dieu, c'est une occasion en or puis on ne la saisit pas, c'est révoltant, tu sais. Ça me rappelle, c'est pas du tout la même chose, mais c'est le même sentiment. Quand il y a eu le déluge au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais aux études. Puis moi, je voulais être journaliste, je voulais être reporter. Puis là, il se passait plein de choses autour de chez nous puis j'avais pas de job. Parce que j'étudiais, je me sentais tellement frustré, je me disais, hey, j'aurais eu l'opportunité de faire une job utile si j'étais journaliste, mais je suis pas rendu encore, je suis aux études, je suis pas en stage, fait que je reste chez nous puis je sers à rien. Grosse frustration. C'est peut-être comme ça que Mme Guilbeault se sent depuis une semaine de dire, tabarnouche, on a une opportunité de se distinguer, puis tout ce qu'on fait, c'est écrire une lettre de positionnement politique très molle, longue, ardue à lire. Il n'y a rien de bon là-dedans.
On nous dit que le français est important, puis moi, je suis entièrement d'accord. Le français est important, mais l'apprentissage de la langue anglaise l'est pour négocier avec les autres. Puis là, François Legault n'est pas capable d'y aller parce qu'il ne parle pas anglais. On fait pitié alors qu'on est une province hyper importante au Canada. On est des berceaux de l'Amérique française. Là. On est une province hyper importante, puis il se contente d'écrire une lettre. Puis l'autre, on n'en parle pas parce qu'on est un peu gêné. Hey, là, t'as peu, là, c'est une fille de l'Alberta.
Moi, je pense que c'est ça qui n'est pas excitant, là. Alberta. Là.
Avec son sac à dos. Ben moi, ça m'excite, une femme de l'Alberta qui est riche. Puis elle s'en va faire face elle va faire un face-à-face avec Donald Trump. Je trouve ça vraiment hot.
Mais le goût, même s'il parle en anglais. Faire, là,
oui.
Toi, tu le verrais.
Ça me rassurerait parce que je me dis, OK, le premier ministre du Québec, il est là pour nous autres. Là.
Assurément, mais moi, j'aurais l'impression qu'on passerait pour des cons encore plus.
Il y a un épisode qui prend peut-être une importance qui est arrivé juste avant toutes ces histoires-là. Quand il y a eu l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, notre premier ministre, il est allé parler à Donald Trump.
Oui.
Si ça avait été une vraie conversation puis qu'il avait créé un vrai lien, là,
il aurait
pu le rappeler. Là, je veux dire, il y a des choses importantes à dire et tout ça, puis ça ne se passe pas. Ouais. Tu sais, on a vu ça comme hey, « oh là là, notre premier ministre est allé voir Donald Trump ». Ouais, d'après moi, ils ne se sont pas dit grand-chose. Ils ne se sont peut-être même pas présentés à la limite. Là. Parce que s'il y avait un lien qui avait été créé à cette opportunité-là, ben c'est peut-être François Legault qui serait à la résidence de Donald Trump en train de manger du pain à viande présentement. Là. Ouais.
Autre dossier qu'on a discuté hier, qui a fait son petit bonhomme de chemin, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui est sorti un peu concernant l'histoire qu'on a parlé de l'école du Plateau, de la Malbaie, avec son conseil d'établissement qui ont dit ben il va falloir choisir entre les matières fortes et ou le sport.
Complètement ridicule.
Et là, le ministre de l'Éducation dit qu'il va falloir qu'ils revoient leur décision.
Mm-hmm.
Et l'école dit ouais, c'est en raison de l'argent qui n'est pas disponible, c'est en raison de la grosseur du bâtiment. On manque de ci, on manque de ça. Qu'est-ce qu'il peut faire, Bernard Drinville, si ce n'est que d'essayer de donner peut-être un budget supplémentaire pour agrandir les locaux, embaucher plus de profs?
Il est où, Bernard Drinville, aujourd'hui? Il est où?
Je ne sais pas.
S'il n'est pas là, s'il n'est pas assis dans l'école
hier,
aujourd'hui,
il était à Marie-Belle.
Il fait pas sa job.
Ouais. Hier, il était à Marie-Belle, il est allé faire l'ouverture de l'inauguration de la nouvelle école en Beauce.
Tu es en désaccord pour une question de valeur avec la décision d'une école. Puis moi, je respecte ça. Je pense que ça fait partie de la job du ministre de l'Éducation de faire des rappels à l'ordre quand il y a des dérives. Il y a eu des dérives religieuses dans des écoles de Montréal. C'est la job du ministre de l'Éducation de sortir puis dire ça, c'est pas les valeurs du Québec. C'est une dérive aussi là, de priver des gens et des jeunes d'excellence dans deux domaines en même temps. Mais si c'est pour des raisons de coupure puis des raisons de budget, et quelles que soient les raisons, la job du ministre de l'Éducation aujourd'hui, c'est rien d'autre qu'être là-bas, assis avec les dirigeants, assis avec les enseignants, assis avec le comité de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le comité qui a fait le vote, là?
C'est le conseil d'établissement.
Assis avec les gens du conseil d'établissement pour dire c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions que nous autres, on peut amener.
Et
c'est ça de la proactivité.
Peut s'assurer qu'au ministère de l'Éducation, on vous encadre et on vous donne les moyens, en fait, d'avoir une réussite complète pour vos élèves selon leurs ambitions, selon ce qu'ils souhaitent. Parce que je comprends quand même dans mesure, puis Sylvain Dancause, qui est chroniqueur ici à Boulevard 102, entre autres, là, en parlait. Puis il a toujours eu peur depuis que le ministre Drinville est en fonction, qu'il y a un genre de micromanagement qui s'installe. Parce que Bernard Drinville, il n'en veut pas nécessairement de la latitude par rapport aux commissions scolaires, par rapport aux directeurs d'école, par rapport aux enseignants. Puis ça crée un peu de bisbée puis de difficultés, mais son travail reste tout de même d'aller voir, d'aller entendre, d'aller écouter et de se remettre en question en tant que ministre de l'Éducation sur comment est-ce qu'il gère, lui, son éducation pour ensuite permettre à des commissions scolaires, à des écoles et autres, de permettre une réussite à leurs élèves.
Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Sylvain Dancause, que je trouve excellent en onde, je pense que c'est pas du micromanagement. Je pense que c'est de dire ça, c'est une dérive, puis on est mal à l'aise avec ça. Mais quand tu prends une position comme celle-là, ça vient en deux parties. Après ça, il faut que tu ailles t'asseoir avec les gens, que tu poses les questions, sont où les problèmes, puis on trouve les solutions. Puis moi, je pars pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution, puis on va travailler ensemble.
J'inverserais tes points, moi. Le point un, ce serait d'y aller. de jaser, comprendre la situation. Pourquoi vous en êtes arrivé là? C'est parce que vous êtes de flagrants fins finaux stupides ou parce que vous avez vraiment une difficulté avec le budget, avec le nombre de classes, avec « je veux comprendre ». Puis effectivement, le deuxième, ce serait « trouver une solution », ça ne peut pas être ça.
Hier, j'ai transmis la lettre à Denis sur son messenger crypté où c'est pratiquement impossible de le retrouver. C'est un auditeur qui nous a entendu parler du dossier de son école qui m'a envoyé cette lettre-là.
Ouais.
Et c'est la directrice de l'école du Plateau. Son nom, c'est Élise Croteau, qui a fait parvenir cette lettre-là. Puis elle explique qu'en raison du nombre élevé de profils particuliers, l'organisation scolaire actuelle crée a priori des dépassements dans la composition des groupes dès le début de l'année scolaire. Aucun dépassement ne sera possible dans le futur afin de respecter le contrat de travail conclu avec les syndicats par le gouvernement du Québec. Puis elle a ensuite dit qu'il est difficile pour le personnel enseignant de couvrir l'ensemble des contenus dans le domaine des sciences avec les élèves qui se destinent à un parcours scientifique au niveau collégial et en étant présentement inscrit dans une concentration, ajoutant que 85 % des élèves de l'école sont inscrits dans un projet pédagogique particulier.
Avec la lettre que le premier ministre a écrite aux Américains, c'est le truc le plus plate que j'ai lu cette semaine. Moi, je suis un parent, je reçois ça, je suis excessivement frustré.
Ben moi, je change mon enfant d'école.
Puis je commence à penser à un déménagement parce que changer d'école dans ce coin-là, puis on en a parlé hier après-midi... C'est pas évident, là. Les alternatives, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Ça peut impliquer un déménagement, un changement de région, mais j'ai un enfant qui est en plein dans ce profil-là. Là. J'ai un petit Laurent Duvernay, là. C'est sûr que je quitte la région, puis je m'en vais trouver un programme qui est capable d'accueillir l'excellence sur deux niveaux.
C'est hier. C'est sûr.
Ça devient ma priorité.
Quand j'ai parlé justement de Laurent Duvernay-Tardif en ondes, j'ai reçu un courriel en fin de journée de quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec ma position, puis même notre position qui est partagée, puis qui dit que bon, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les sciences toute sa vie, mettons en chimie, là, puis scientifique, puis qui disait que ben, pour sa part, il trouvait effectivement que dans des concentrations aussi importantes, il faut se concentrer dans le cursus d'études en sciences, il ne faut pas se disperser.
Pas vrai, ça. Puis, bullshit.
Pas que,
bullshit.
Je ne dis pas parce que je suis un débile et que je n'aurais pas été capable, mais juste parce que bon, ça demande beaucoup de cerveau, ça demande une expertise assurée, une
ça
qualité
demande,
dans la société.
Ça demande ce qu'on demande aux adultes à tous les jours, de la polyvalence, de l'ajustement, du multifonction. C'est la vie, ça. T'apprends la vie à essayer d'exceller dans deux affaires en même temps. Il y a des gens qui sont capables.
Puis ils ont le potentiel. Puis ceux-là, il ne faut pas les remettre au même niveau que les autres. Il faut les aider à s'élever encore plus.
Ce qu'on a souvent tendance à faire dans notre ministère de l'Éducation publique, rabaisser les standards pour que tout le monde soit égal ou à peu près. Puis les plus pénalisés, souvent, c'est les plus performants. Puis c'est eux qui décrochent.
Puis parle
sport. Les gens qui décrochent, c'est pas toujours... Ça, c'est une espèce de mythe qu'on s'est bâti dans nos têtes, que les gens qui décrochaient, c'était du monde qui n'était pas intelligent puis qui n'avait pas d'intérêt pour l'école. Ouais. Il y a des gens suprêmement intelligents qui décrochent de l'école parce qu'ils ne sont plus stimulés intellectuellement.
C'est souvent, en fait, ce qu'on entend majoritairement à quelqu'un qui n'a pas la possibilité. Un, les parents ne les ont pas stimulés à continuer à triper dans le domaine. Peut-être qu'ils ont même découragé en disant par le manque d'argent, par la difficulté à joindre les deux bouts, ben non, arrête ça tout de suite, puis va travailler dans un DEP, va faire un DEP ou encore travailler à quelque part, tu vas monter les échelons et tu n'as pas besoin d'études. Mais par le sport, tu apprends une méchante grosse discipline, tu apprends aussi le vivre ensemble, une certaine hiérarchie selon la position, c'est un groupe sportif avec lequel il y a d'autres joueurs autour. Tu apprends tout ce que tu n'apprends pas dans un cursus scolaire normal et qui va t'amener à être un meilleur individu, probablement meilleur dans ton métier aussi. Apprendre à travailler en équipe, là, quand même que tu as étudié tes sciences pendant 5 années au secondaire, là, c'est avec toi-même, tu as une compétition, mais c'est avec toi-même, c'est pas un partage de connaissances et autres. Moi, je trouve qu'on néglige ça aussi.
Qu'est-ce qu'on nous demande à nous autres, les adultes? On nous demande d'être un bon chum. Mm-hmm. On nous demande d'être un bon collègue de travail. On nous demande de performer à job. On veut être un bon parent. On veut être un excellent parent. Puis en plus de ça, bien, il y a des gens qui s'entraînent puis qui font des marathons.
Oui.
Il y a des gens qui font des voyages. Il y a des gens qui font des études. Il y a des gens qui se découvrent une passion puis qui investissent temps, argent et énergie là-dedans. Ils réussissent à tout faire ça. C'est ça qu'on enlève à nos jeunes comme possibilité quand on leur dit « Ah, ben là, ça, c'est quelque chose de difficile. Fait que tu peux pas faire autre chose de difficile en même temps. » Il y en a qui sont capables. Il y en a qui se stimulent avec ça.
C'est pas parce que tu es un génie que tu n'as pas besoin de sport. C'est pas parce que tu fais partie des sports d'élite que tu peux pas mettre un peu de plomb dans ta tête.
Exact. Exact, absolument.
Laurent Duvernay-Tardy est le meilleur exemple qu'on a donné hier.
Puis il y en a plein d'autres. Il y en a plein.
Puis l'équilibre aussi.
Oui.
Je veux dire, la santé mentale, là, à un moment donné, t'es burn-out, t'es cidé ça là, dans ton domaine professionnel. Puis nous autres, on est à risque parce qu'on a un métier de passion qui n'arrête jamais. Même quand on est en vacances, on suit l'actu, on a une opinion, on jase avec du monde, on est curieux. Bien, il faut avoir d'autres choses à côté. Je donne l'exemple de nous parce que c'est sur lequel on peut le plus se prononcer. Mais je pense qu'aussi un scientifique ou peu importe qui, un mathématicien, n'importe quoi, même le caissier
moi,
à l'épicerie.
Gardienne en garderie, là.
Éducatrice en garderie?
Éducatrice.
Hein?
Ça faut les appeler, les éducatrices.
J'espère qu'ils ont...
Je suis en burn-out aux deux semaines.
Tu dis, toi, plus que deux enfants, je suis en burn-out.
Enlève ton
doigt
dans ton nez.
Les amis, je vais vous parler de ça. Okay, c'est une étude qui a été rendue publique il y a déjà plusieurs mois, mais la Coop de l'information a obtenu une copie de cette étude-là. C'est une étude du ministère de l'Environnement. On a mené une étude sur l'impact des feux de camps dans 75 sites de camping de 18 parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, Denis?
Trop, c'est comme pas assez. Hein?
Ouais.
Alors, ça tombe dans la catégorie « trop, c'est comme pas assez ».
Ce camping-là pollue peut-être un peu trop. Là. On va leur interdire de faire des feux à ciel ouvert.
Il va y avoir un vrai couvre-feu.
Il va y avoir un vrai couvre-feu. Les 10 campings au pointage les plus élevés, L'Érablière Plaisance, 9.6. La Bétulée de Jacques-Cartier, 9.5.
Mais là, le feu de camp au camping, on va-tu commencer à gérer ça avec une police du feu de camp?
Ça s'en vient.
On est malade.
C'est le gars en char de golf. Fermez votre feu.
Ça s'en vient. J'ai appris qu'il y avait une famille, pas une famille, un organisme, famille pour l'air pur. Le nom du gars...
Je suis étouffé, là.
Le nom du gars, c'est Daniel Vézina. Puis, tu sais, j'imagine que lui, il a toutes les raisons du monde de faire partie de cet organisme-là. Puis, il veut sauver des vies. Puis, il y a peut-être des enfants qui peuvent être asthmatiques. Puis,
peut-être.
Si les enfants veulent aller au camping, ils vont être un peu, dérangés par la fumée des.
Mais moi, j'ai failli
camp.
Crever à Woodstock en Beauce, sauf que c'était des feux d'hiver avec plein de produits chimiques.
C'était de la fumée de potes.
Avec la drogue. Tout,
on a tous manqué mourir à Woodstock. Stock en bosse au
sérieux,
moins une fois. Là.
J'ai jamais autant fait d'asthme de toute ma vie. Là.
Mais tu sais, l'air pur, t'as à boire.
Daniel Vézina.
Tu regardes la carte du Québec.
Pas
là.
Le chef. Là.
Si tu veux du bois à l'air pur, là, c'est probablement ce qu'on a le plus ici. Là. On
oui.
a ça plus que des villes, plus que des terrains de camping. Si tu veux partir avec ta tante puis tes enfants puis respirer l'air pur, c'est l'affaire la moins dure à faire au Québec. C'est notre plus grande richesse. Trop, les amis. C'est comme pas assez, là. Les Ghostbusters du feu de camp, en plein air.
Moi, je te garantis qu'il va y avoir des endroits où on n'aura pas le droit de faire de feu en plein air. Là.
Mais à place d'empêcher, est-ce qu'on peut prendre, mettons, d'autres dispositions? Si t'as un camping, toi, où t'es assez pack ou autre, tu permets les feux extérieurs, mais maintenant, il y a eu des concepteurs, des gens intelligents qui ont vu peut-être la pièce à faire et où l'envie de sauver l'environnement et l'air pur et autres. Ils ont créé des bûches, OK, qui émanent pas de la même manière qu'une bûche de bois, là, je sais pas trop si
ça fait moins de marde. Ça
fait moins de marde, puis ça en fait pas. Fait que si, mettons, toi, t'as un feu à un foyer à maison, puis t'essaies de chauffer avec ça ou autre, ça aide énormément.
C'est-tu 25$ de la bûche?
Bien, si c'est ça au camp de jour, c'est presque rendu ça une poque de 6, là, honnêtement, là, de bois normal que t'achètes. Mais on peut-tu trouver
t'es dans le bois,
mais
il faut que t'ailles chercher tes bûches au canal.
Non, mais si t'es vent,
qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va-tu à la pêche? On va-tu se baigner? Non, je vais au canal. Qu'est-ce que si j'ai plus de bûche?
Daniel Vézina, qui est le fondateur.
Mais là, pas le chef. Là. Tout le monde dit pas le chef.
Daniel Vézina, qui est le fondateur de l'organisme Famille pour l'air pur, dit il y a 1 million de Québécois qui font du camping chaque année. C'est certain que c'est pas tout le monde qui aura des effets néfastes des feux de camp. Mais le risque est là et il faut diffuser l'information.
Dans un monde de grands pollueurs industriels, la chasse aux feux de camp m'apparaît un petit peu futile et infantile.
Est-ce qu'on en parle pareil? La réponse est oui, on peut en parler. Parce que je veux pas non plus juste enlever l'initiative de gens qui sondraient la qualité de l'air.
C'est parce que ce genre de comportement-là, considéré comme un peu extrême pour 90 % des moineaux, ça amène la réaction extrême de l'autre bord, du gars qui va dire « Hey, j'avais pas starté le poêle, moi, cet hiver. Ben là, je vais me mettre deux bûches à soir. Je vais poser ça sur Facebook. Puis, j'ai allumé mon poêle. »
On a un ici en studio.
Non, mais je trouve pas que c'est la bonne façon. Tu sais, trouver le milieu, trouver les trucs qui polluent le plus, puis fesser là-dessus. Mais de commencer à courir, mon Dieu, les terrains de camping en plein été, alors que l'été dure 3 semaines au Québec... Ça m'apparaît excessif, ridicule et contre-productif. parce que ça va amener des réactions, je pense, comme on a aujourd'hui. Puis il y en a qui vont réagir un petit peu plus agressivement.
Quelqu'un qui nous écrit, je travaille avec le ministère de l'Environnement tous les jours parce que ben, je fais le suivi de certains projets, OK, dans le milieu agricole. Puis la personne dit, ce ministère est assez incroyable, avec un bonhomme qui rit, voyez ce que vous voulez. Le seul point que j'ai pour défendre tout ça, c'est qu'ils subissent les pressions de lobby et ils doivent y répondre.
Le ministère de l'Environnement, tu sais que j'ai déjà été sinistré, Yann. Il a fallu que je fasse débâtir ma maison, puis j'ai été évacué en raison d'une inondation, la rivière Montmorency. Okay? C'est là que j'ai déménagé à Charlebourg. Les premières personnes que tu rencontres, c'est des gens de ministère, avec un S, et tu rencontres les gens de la ville. Tous ces gens-là m'ont dit une chose. Si tu veux que ton projet se réalise, et nous, on est là pour t'aider à le réaliser, si tu veux que ce projet-là fasse en sorte que tu ne sois pas ruiné pour les 15 prochaines années à titre personnel financier, le ministère de l'Environnement ne doit pas être mis au courant de ce qui se passe. Puis c'est un autre ministère du même gouvernement qui dit ça. Le ministère de l'Environnement, la seconde où ils viennent ici, ça te coûte des centaines de milliers de dollars de plus. Puis il y a plein de choses que nous autres, on va te dire de faire que tu ne pourras plus faire. La ville m'a dit la même chose. C'est plein d'intervenants qui te disent « OK, en dedans d'un an, ça va se faire, mais il ne faut pas que le ministère de l'Environnement vienne voir. »
Désolé.
C'est spécial.
C'est comme ce qu'on au patrimoine, mettons, quand tu te fais construire, là, puis que là, tu veux le jaune que tu avais avant sur ta maison, mais tu as dû la démolir pour une raison, mais là, en prenant le même jaune, quelqu'un te dit « Non! » C'est pas le bon genre.
Ça, c'est compliqué.
Pour le patrimoine.
Moi, j'avais acheté une maison patrimoniale. Puis là, il y avait des affaires que je pouvais faire, des affaires que je pouvais faire, mais des affaires qui étaient impossibles, que je devais faire, mais je pouvais pas le faire.
Genre, les lattes de bois n'existaient plus. Là.
Ben, il y a les fenêtres. Ouais. Tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, ben, je vais remettre mes rénovations à peut-être 5 ans, 10 ans, parce que là, j'ai pas le temps de me concentrer là-dessus. J'ai tout rénové. J'ai tout repeinturé comme c'était avant. J'ai vendu la maison. Ça fait 15 ans. Je n'ai pas entendu parler.
Mais tu dis à la radio, là, mais... ça, c'est comme les 6 chats que tu as achetés depuis la taxe au chat et tu n'as pas étiqueté aucun d'entre eux. Là. Fais attention.
Mais un des exemples qu'on m'avait raconté à l'époque avec le ministère de l'Environnement, vu que j'étais sur le bord d'une rivière, c'est que ça prenait un type de pelle mécanique très particulier pour défaire la maison parce qu'il y avait des chances de déversement d'huile ou whatever. Puis cette pelle mécanique-là, comme par magie, la louer, ça coûte 6 fois plus cher. Pour la descendre, ça prend du plus gros matériel routier. T'sais, c'était plein de micro-exemples comme ça qui faisaient en sorte qu'à partir du moment où le ministère de l'Environnement est d'un dossier, il devient soit irréalisable ou soit il faut que tu déclares une faillite personnelle. Fait qu'imagine-toi ça à grand déploiement. T'sais.
On a
qu'est-ce
Stéphane
ça donne?
Leblond pour toi, si jamais.
Oui, qu'est-ce que ça donne pour les entreprises? T'sais, qu'est-ce que ça donne pour les gens qui, justement, entre autres, travaillent dans le plein air? T'sais, trop, c'est comme pas assez.
Exact. Denis Gravel, je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute à 14h avec Véro et Audrey.
Yes, salut. Sir, salut. Gravel.